Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Et votre invité, bonjour madame.
Bonjour.
Marie-Cécile Nave, bonjour.
Une fois de plus, on est raccord, cher ami.
Oui, tout à fait.
Voilà, au sommaire, c'est Trump face au mur.
Et la fin temporaire du shutdown et cette première concession de Donald Trump, il faut le souligner. Un accord jeudi dernier avec les démocrates pour négocier une solution d'ici le 15 février. Pas sûr que le mur en ressorte entier, effectivement. Et le président américain, donc, recule pour la première fois. Alors, Marie-Cécile Nave, merci d'être venue. Vous êtes chercheuse à l'IRIS. Justement, vous venez d'écrire un article pour la revue politique internationale sous forme de questions. Trump réélu. Là, on voit que l'administration repart, le calendrier politique aussi, puisque ça devait être aujourd'hui. Depuis quelques heures, on connaît la date du discours sur l'état de l'Union, 5 février. Consolation ou plateforme pour une nouvelle offensive. Quand même, la première chose, c'est qu'on avait déjà vu le président céder face au juge, mais jamais prendre la responsabilité d'un recul.
Alors lui, le définirait pas comme ça. Pour lui, c'est une victoire parce qu'il est arrivé à un compromis, donc il se présente comme un homme d'État responsable. Évidemment, il se présente absolument pas comme étant dans un scénario de recul et de défaite. Mais les faits sont là. Il est très affaibli sur le plan politique. Il est par ailleurs inquiet sur le plan judiciaire, ce qui joue aussi sur sa confiance. C'est une très très mauvaise passe pour lui. Mais c'est peut-être juste une passe. C'est-à-dire, il faut quand même être très prudent avec Trump. Avec Trump, on a souvent envie de tirer des conclusions définitives ou des jugements un peu radicaux, des avis un peu radicaux. Il faut être très prudent, même si là, il est évident que les démocrates ont gagné une manche importante et ça se voit à la fois dans le jeu politique à Washington où les républicains commencent à douter de la possible victoire de Trump en 2020, mais même de l'intérêt de sa candidature. Des rumeurs qui commencent à se propager sur le fait que peut-être il pourrait avoir des concurrents pour l'investiture, mais aussi dans l'opinion publique où l'opinion publique ne lui fait pas confiance. Il a perdu du crédit d'une manière générale auprès de tous les Américains, mais aussi auprès de sa base. Les ultra-conservateurs, certains ultra-conservateurs le qualifient de pleutre. Et ces dernières heures, il a fait une série de tweets un peu dans tous les sens pour vanter son bilan économique en disant, par exemple, des usines s'installent partout aux États-Unis. Sur quelle base rationnelle, on ne sait pas. Et en donnant aussi des gages aux ultra-conservateurs, en disant, voilà, dans certaines écoles, on étudie la Bible plus qu'avant, c'est une bonne nouvelle. Il a reçu aussi des courants ultra opposés à la présence des femmes dans l'armée, par exemple. Donc, il essaie d'aller chercher des soutiens partout, mais il est à la fois discrédité auprès des ultras et discrédité peut-être plus que jamais depuis qu'il a été élu auprès de l'opinion publique. Donc c'est une quadrature du cercle difficile à tenir.
Et alors cette question du mur, sans mauvais jeu de mots, est-ce que c'est une mauvaise passe ou une impasse, une balle dans le pied, une erreur stratégique ou tactique comme on dit beaucoup de monde, ou plus simplement qui s'est heurté cette fois-ci à un adversaire de taille comme on dit beaucoup de commentateurs, Nancy Pelosi, donc la leader de la Chambre, désormais démocrate.
C'est un petit peu tout ça. Il est aujourd'hui pris au piège de sa promesse de campagne la plus emblématique, qui est la construction de ce mur qui, dans les faits, est impossible à cause du Rio Grande, à cause de tout un tas de considérations de terrain et juridiques, droits de propriété, etc. Mais tout dépend de ce qu'on entend par mur. Lui-même, il est passé d'un mur en brique à peut-être un mur en métal.
Tout récemment, oui.
Peut-être renforcer la barrière qui existe déjà sur une partie de la frontière. Et puis, effectivement, en face, vous avez une opposition qui est quand même galvanisée par sa nette victoire au midterms du 6 novembre dernier, avec une chambre de représentants qui a une majorité de 40 sièges, c'est beaucoup, qui a repris beaucoup de postes de gouverneur. Et une Nancy Pelosi qui n'est pas tombée de la dernière pluie, qui était la première femme speaker de la Chambre déjà en 2007, et qui n'est pas arrivée en position de force, y compris dans son propre camp, en tant que speaker, c'est-à-dire présidente de la Chambre des représentants. Il y avait un certain nombre de voix qui s'élevaient pour dire qu'il fallait quelqu'un qui était peut-être plus à gauche, chez les démocrates. C'est une personnalité aguerri. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, à la fois dans cette histoire de shutdown et dans les problématiques judiciaires qui visent Trump, finalement, on voit que les institutions lui résistent. Et c'est, je crois, Une lecture qu'on peut faire, c'est que finalement la démocratie américaine fonctionne bien. On le laisse pas faire tout ce qu'il a, tout ce qu'il a envie de faire, en bravant ou en menaçant de braver les règles, hein, en disant oui. Je vais envoyer l'armée pour construire le mur coûte que coûte. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans une démocratie.
Et parce qu'en ce sens, Nancy Pelosi, elle a aussi justement une portée symbolique, hein, une figure de responsabilité représentante de l'institution face un peu à la dérive de Donald Trump. Mais quel effet politique elle peut réellement avoir au-delà de cette passe du mur? Pour les coups, elle lui a dénié temporairement cet accès au mur, ou en tout cas cette rhétorique et donc ce projet politique. Le shutdown également, qui n'est que temporairement en pause. Les attributs de la présidence au Congrès avec ce discours sur l'état de l'Union qu'elle lui interdisait quasiment de faire. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus?
Continuer à jouer son rôle de garde-fou institutionnel, de rappeler quelles sont les règles et lui montrer qu'il ne peut pas, faire tout ce qu'il veut. Et puis c'est sans doute quelqu'un bon, qui ne sera pas candidate à la présidence de 2020, mais qui peut jouer un rôle important dans la définition de l'offre politique du Parti démocrate en 2020, parce qu'elle sent un peu aussi ce vers quoi Trump va peut-être essayer d'aller. Est-ce qu'il va continuer à galvaniser sa base sur les questions identitaires? Est-ce qu'il va essayer plutôt d'aller vers le compromis avec les démocrates sur un grand plan d'infrastructure, par exemple, sur la réforme du système des aides sociales, voire de santé? C'est pas impossible. Il peut aussi changer son fusil d'épaule, donc elle va voir ça de près. Parce que bon, Trump est affaibli, mais en face, on n'a pas forcément un parti démocrate qui est en ordre de bataille et qui obéit une certaine cohérence idéologique. On l'a vu avec les midterms, il est partagé entre une tradition depuis 2016 qui est plutôt centriste, qui est plutôt modérée, avec des figures comme Joe Biden, mais il y a une aile gauche qui pousse pour avoir un agenda beaucoup plus social, sur un système de santé universel, sur la gratuité des études supérieures, sur l'environnement, sur les droits des femmes et des minorités, avec toutes les figures qui sont montées, qui sont très médiatiques. Donc on a déjà presque 10 candidats aux primaires démocrates, donc c'est un parti qui est un peu écartelé entre deux grandes tendances, et ça l'affaiblit aussi. Ça l'affaiblit face à Trump, et Trump le sait, il va jouer là-dessus.
Et sans compter cet ancien patron, tout juste ancien patron de Starbucks, Howard Schultz, dont on parle beaucoup depuis quelques jours, qui se présenterait comme concurrent indépendant pour la présidentielle. Véritable danger pour le Parti démocrate, dit-on, parce que centriste, justement. Pour le Parti républicain.
Oui, et même pour le Parti démocrate, parce qu'il estime que le Parti démocrate n'est pas assez progressiste. Oui, Trump a fait un tweet hier pour dire que c'était pas une personne intelligente et qu'il ferait mieux de lui payer son loyer dans la Trump Tower.
Oui, puisqu'il se trouve au premier étage de la Trump Tower. C'est un Starbucks, je crois. Alors, dernière chose, peut-être, en ce qui concerne le shutdown, quand même, il vient d'être chiffré par le bureau du budget du Congrès. Alors, c'est un impact qui est assez négligeable, mais sur des fonds de prévision économique plutôt mauvais pour Donald Trump. À qui est-ce qu'on attribue, disons, la responsabilité du shutdown? Qui est-ce qui va en payer l'impact politique?
Alors, ce qu'on constate avec ces sondages d'opinion, c'est que la défiance contre les élites est toujours forte aux États-Unis. Les cotes sont très faibles du côté démocrate et républicain, mais semble-t-il, les sondages convergent pour dire que c'est plutôt à Trump que l'opinion publique attribue l'échec des négociations qui ont conduit au shutdown et au shutdown prolongé. Et ça, dans toutes les catégories, y compris chez les plus démunis, y compris chez les blancs, etc. Donc, il y a quand même un sentiment anti-élite qui demeure, qui lui avait été favorable pour son élection en 2016, mais dont il semble qu'aujourd'hui lui-même pâtisse, parce qu'il est considéré comme il se présente comme l'homme qui fait des deals, comme il avait fait quand il était homme d'affaires, et là-dessus il a perdu, il est revenu sur en deçà même des concessions qu'il avait faites en décembre. Oui. Il a reculé encore plus que ce qu'il avait essayé de promettre en décembre.
Alors, voilà pour les reculs politiques. Il y a un tout petit point sur la question institutionnelle ou judiciaire. Donc il y a eu l'inculpation l'arrestation encore d'un vieil ami, dit-on, de Donald Trump jeudi dernier. Il est question de plus en plus, là, depuis cette nuit, de conclure cette enquête. Hein. C'est le ministère de la Justice qui en parle, qui dit qu'elle va être conclue bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des informations? Ça tendrait à quelque chose?
J'aimerais bien avoir des informations. Non, on est dans un feuilleton qui est bien dont le secret est bien gardé par le procureur Mueller, un feuilleton dans le feuilleton Trump, parce que Trump c'est aussi quelqu'un qui feuilletonne beaucoup sa présidence, qui dit tout le temps on verra ce qu'on verra suite au prochain épisode, on verra bien, y compris pour des choses très importantes comme la rencontre avec Kim Jong-un. Voilà, il est dans une sorte de teasing comme dans The Apprentice, finalement. Mais là, c'est un feuilleton dans le feuilleton, et tout ça est très très sérieux. Et chaque semaine, on se dit que l'étau se resserre auprès de son entourage, et peut-être de lui-même. Qu'est-ce que le procureur Mueller a réussi à prouver? Est-ce que Trump a obligé certains des témoins à mentir devant le Congrès? On le saura peut-être dans quelques semaines, peut-être encore plus tard, on va voir.
Bon, à suivre les prochains jours, audition de Michael Cohen encore le 8 février. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS. On enverra vos articles, merci.